Donc, on va passer en revue ensemble les aspects qui sont liés au syndrome obésité-hypoventilation et surtout à son traitement par la ventilation non invasive. Donc, on a vu à travers les exposés précédents quelles étaient les définitions ou la définition finalement qu'on retient du syndrome obésité-hypoventilation. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque vous connaissez bien ce syndrome. Par contre, peut-être s'intéresser. Pardon, j'ai. Voilà. S'intéresser juste à un point de détail, mais qui est intéressant pour nous comme cliniciens, c'est l'intérêt qu'on accorde maintenant en fait au bicarbonate comme étant un marqueur possible de l'hypoventilation alvéolaire et donc un outil de plus, si vous voulez, pour détecter parmi les patients très obèses ceux qui seraient en fait à risque de développer une hypoventilation alvéolaire et nécessiter un support ventilatoire. Alors, qu'est-ce qu'on va discuter pendant cet exposé? On va essayer de revoir ensemble rapidement pourquoi il faut ventiler des sujets avec un syndrome obésité-hypoventilation et s'il faut le faire avec un ventilateur classique ou avec une PPC simplement. On regardera à partir du moment où on a choisi l'un ou l'autre de ces dispositifs quel type de paramétrage on va utiliser et puis on passera rapidement sur la question des ventilateurs à volume cible dont peut-être les différents fabricants qui sont présents dans cette assemblée vous auront parlé lors des discussions informelles juste à côté. Alors, on est tous, grâce au premier exposé, tout à fait au point maintenant, heureusement, sur les aspects mécaniques et sur les aspects physiopathologiques qui conduisent finalement à l'insuffisance respiratoire chez le sujet obèse. Vous avez déjà vu cette figure qui vous montre en fait les modifications de volume qu'on a chez le sujet obèse avec des modifications, comme on l'a vu, de la capacité pulmonaire totale qui vont être variables, le plus souvent pas très importantes, mais surtout ces modifications de la capacité résiduelle fonctionnelle et du volume de réserve expiratoire avec les conséquences sur la ventilation qui nous ont été très bien expliquées. Et puis, un point qui est important aussi, c'est les modifications de la compliance. Et on a vu ça en détail. Vous voyez bien ici cette très jolie courbe exponentielle qui montre la relation entre la compliance du système respiratoire et l'index de masse corporelle avec les sujets donc très obèses, les sujets avec une obésité morbide qui ont une diminution marquée de la compliance, ce qui va évidemment entraîner une augmentation du travail respiratoire. Cette augmentation du travail respiratoire, on peut la quantifier à travers la consommation d'oxygène qui est spécifiquement associée à la respiration. C'est ce qui a été fait dans ce très joli travail qui a en fait comparé des sujets obèses et des sujets témoins lors d'une anesthésie en regardant quelle était la différence de consommation d'oxygène une fois qu'on déchargeait finalement ces patients qui étaient sédatés de la charge ventilatoire. Et ce qu'on voit, donc il s'agit de patients qui étaient vraiment obèses, ils étaient considérables puisqu'on a un index de masse corporelle à plus de 50. Et ce que vous avez ici, c'est donc la différence entre ces deux groupes, les sujets témoins où les modifications de la consommation d'oxygène, de la VO2 sont tout à fait mineures, alors que chez le sujet obèse, vous avez 16% de sa consommation d'oxygène, donc de son activité métabolique, qui est associée au travail respiratoire, ce qui est évidemment énorme. Ensuite, il y a un point qui a été évoqué dans les questions tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a un moment à partir duquel le risque d'hypercapnie augmente ? Et vous avez ici une compilation de trois travaux, dont le plus important était un travail de Lantadir, donc de l'Association nationale pour le traitement à domicile de l'insuffisance respiratoire. Tous les patients que vous voyez ici sont des patients qui sont des apnéiques, donc qui sont traités pour un syndrome d'apnée du sommeil. Et vous voyez en fait le pourcentage des sujets qui sont hypercapniques de jours en fonction du BMI. Donc on voit très bien que cette courbe décolle clairement pour des sujets qui ont 40 ou plus d'index de masse corporelle et puis qu'entre 35 et 39, on est dans une zone orange, une zone de danger de sujets qui doivent être suivis de près. Et enfin, donc, on a vu à travers le premier exposé à nouveau les conséquences du syndrome obésité hypoventilation alvéolaire, ou plutôt les interactions entre le SOH et la commande ventilatoire. Et on a vu que ce sont des sujets qui ont une diminution de la réponse ventilatoire au CO2, qui ont une diminution de la réponse ventilatoire et à l'oxygène et au CO2, et que, en fait, ceci plus les autres modifications mécaniques qu'on a évoquées, c'est-à-dire l'augmentation de la charge mécanique, éventuellement, dans certains travaux, une diminution de la force des muscles respiratoires, notamment le travail de Maza en Espagne, l'augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures, eh bien, tous ces éléments sont des éléments qui vont précipiter le syndrome obésité hypoventilation alvéolaire et nécessiter un traitement spécifique. Alors, est-ce qu'on a d'autres arguments pour traiter ces patients? Eh bien oui, ça c'est un travail qui est très fréquemment cité par nos collègues de Denver, qui montre en fait la courbe de survie chez des sujets admis aux urgences pour une décompensation hypercapnique avec une obésité. Vous voyez ici des sujets qui n'ont pas été traités, avec un syndrome d'obésité hypoventilation alvéolaire et une mortalité qui est quand même assez impressionnante après une année. Ici, vous avez des obèses qui sont normocapniques, donc ici c'était des obèses hypercapniques, et puis ici vous avez la survie basée sur un autre travail chez des sujets obèses qui sont ventilés. Donc je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a aucun doute, le bénéfice de la ventilation non-invasive chez ces sujets est très marqué en termes de survie. Alors, donc, si on se résume, le syndrome obésité hypoventilation diminue les volumes pulmonaires, en particulier la capacité résiduelle fonctionnelle et la compliance. Ceci s'associe à une augmentation du travail respiratoire. Il y a des modifications associées de la commande ventilatoire et de la réponse au CO2. Et il y a clairement une différence en termes de survie lorsqu'on ventile chez ces patients une fois qu'ils ont un SOH avéré. Alors la deuxième question que l'on voit dans la littérature, c'est avec quel instrument est-ce qu'il faut finalement traiter ces patients? Est-ce qu'il faut réellement une ventilation avec la complexité associée ou est-ce qu'on peut se contenter d'une PPC? Alors la question est légitime puisque finalement 90% des patients qui ont un SOH ont un syndrome d'apnée du sommeil associé. Et puis on sait que le syndrome d'apnée du sommeil tout seul peut tout à fait expliquer l'hypercapnie et la sévérité finalement du syndrome d'apnée du sommeil plus une analyse de l'intervalle apnée-interapnée peuvent être deux facteurs qui expliquent l'évolution vers une hypercapnie qui serait traitable par une seule PPC. Et donc, en fait, il s'agit d'essayer de définir s'il existe un sous-groupe de sujets très obèses qui se présentent avec une hypercapnie, mais qui pourraient répondre à une PPC. Alors, vous avez ici l'illustration de la participation de l'intervalle interapnée. Vous avez donc ici un sujet avec un tracé polygraphique. Vous voyez très bien donc toutes les caractéristiques d'apnée obstructive. Et vous voyez ici des phases d'apnée prolongées avec des reprises ventilatoires qui sont très courtes. Et il est certain qu'au cours de chacun de ces événements, ce patient accumule une charge en CO2 qu'il n'arrive pas à excréter pendant ces brefs moments d'hyperventilation. Et donc, ce genre de patient peut augmenter progressivement sa capnie pendant la nuit et se trouver avec des valeurs de PCO2 très élevées au matin. Donc ça, clairement, c'est un élément qui est important et qui doit être recherché. Ensuite, il y a ce travail espagnol de Pérez de Llano qui a essayé de savoir à nouveau, chez des sujets qui avaient fait une décompensation hypercapnique, qui les avait conduits à une ventilation non-invasive en urgence, eh bien, est-ce qu'il y avait des sujets qui pouvaient être traités par PPC et d'autres par ventilation non-invasive? Donc ces sujets ont été ventilés après leur décompensation hypercapnique. Il s'agit d'un collectif relativement modeste, 24 sujets. Ils ont eu une première polysomnographie afin de s'assurer qu'ils avaient bien des apnées du sommeil, puisque sinon la pertinence de la PPC était discutable. Et puis ensuite, ils ont eu un essai de polysomnographie et de PPC, donc enregistrement du sommeil sous PPC, et les patients ont été divisés en PPC ou ventilation non-invasive selon en fait la persistance ou non de phase d'hypoxémie nocturne. Et donc, les auteurs ont comparé à ce moment-là les deux groupes. Est-ce que vous voyez ces deux choses? Vous voyez ici que les sujets qui ont été ventilés finalement ont des volumes mobilisables qui sont inférieurs à ceux des gens qui ont pu répondre à la PPC. Donc vous voyez ici une capacité vitale et un VEMS qui sont nettement diminués par rapport au groupe PPC. Et vous voyez aussi que les sujets qui ont dû être ventilés passaient 92% de leur temps sous 90% de saturation lorsqu'ils ont eu cette polysomnographie. Enfin, vous voyez que le groupe qui a répondu à la PPC avait un index d'apnée-hypopnée plus sévère. Donc ça nous permet de profiler un petit peu les patients qui seraient éventuellement des répondeurs à la PPC. Troisième travail, aussi très fréquemment cité, celui d'Amanda Piper, qui travaille donc en Australie, qui est très bien connue dans ce domaine, et elle s'est intéressée à comparer à nouveau, dans un travail randomisé, prospectif, l'évolution de gens obèses, hypercapniques, apnéiques, sous PPC ou sous ventilation à deux niveaux de pression en mode spontané. Là, à nouveau, vous voyez qu'il s'agit de patients très, très obèses. Hein. On a des index de masse corporelle qui sont supérieurs à 50, donc c'est du sérieux. Et puis, on a des valeurs de PCO2 de base qui remplissent clairement les critères d'un syndrome obésité hypoventilation alvéolaire. Ce qui est fondamental, c'est que dans ce travail, en fait, les sujets les plus sévères, finalement, ont été exclus de l'analyse, c'est-à-dire qu'on a enlevé les gens qui gardaient des désaturations significatives sous PPC, ceux qui avaient une hypoventilation alvéolaire remplissant les critères plus récents, disons, d'hypercapnie nocturne. Donc, en fait, on a pris les hypoventileurs les plus sévères et on les a écarté de l'étude, et moyennant en fait cette restriction très importante dans l'analyse de ce travail, à ce moment-là, avec un suivi de 3 mois, on n'avait aucune différence sur tous les endpoints, c'est-à-dire les échanges gazeux, l'évolution de la PCO2, le score de somnolence et les scores de qualité de vie. Donc à nouveau, il existe une population d'apnéiques, obèses, hypercapniques, qui peut répondre à la PPC et qui ne nécessite pas forcément une ventilation. Maintenant, est-ce que la ventilation marche chez ces patients? Eh bien, il y a un seul travail randomisé qui a été fait par le groupe de Jean-Louis Pépin, c'est Jean-Christian Borel qui a organisé cette étude randomisée, qui est une étude très belle, très propre, très simple, sur donc 37 patients randomisés avec un syndrome obésité hypoventilation alvéolaire qui ont été suivis de façon très complète pendant 1 mois et chez lesquels on a étudié toute une série de variables physiologiques et aussi des éléments biologiques, biochimiques. Et ce qu'on voit à nouveau, c'est que chez ces patients, donc là à nouveau il n'y a aucun doute sur le bénéfice apporté sur la PCO2 par la ventilation non invasive, sur le bénéfice des bicarbonates, bénéfice évidemment indirect, et puis un petit gain ici sur la capacité pulmonaire totale qui est un peu intriguant, mais enfin qui fait partie des données rapportées. Et puis de façon beaucoup plus importante pour le patient, c'est l'amélioration spectaculaire de tous les indices de fragmentation et de qualité du sommeil. Donc quand on regarde tous ces éléments, que ce soit les différents stades de sommeil, les index de désaturation, le temps passé avec une saturation inférieure à 90%, bref, clairement, la ventilation a un bénéfice physiologique qui est majeur, qu'on voit très joliment ici graphiquement. Vous avez le groupe témoin, le groupe ventilé, la PCO2, la saturation moyenne pendant la nuit, le temps passé à moins de 90%. Donc, ce que Jean-Christian Borel nous dit, c'est dans une population qui répond aux critères, il n'y a pas de doute, la ventilation, ça marche. Donc ce qu'on peut dire à partir de là, c'est que la PPC pourrait marcher dans un sous-groupe d'apnéiques obèses qui ont une restriction modérée, qui n'ont pas une hypoventilation nocturne majeure et qui, pourraient à ce moment-là faire l'objet d'un essai de PPC. Et puis, lorsqu'on prend l'option d'une ventilation non-invasive, on voit que la ventilation non-invasive a un effet tout à fait net, bien démontré, sur les gaz du sang, sur la réserve alcaline, sur la capacité pulmonaire totale, même si c'est un peu intriguant, et sur la qualité de vie. Alors maintenant, comment faut-il ventiler ces patients? Eh bien là, la littérature est relativement homogène. En fait, on a affaire en général à une ventilation à deux niveaux de pression, donc ce qu'on appelle un bi-level. Et puis, les paramètres doivent être ajustés en tenant compte de la physiologie particulière de ces patients. Donc, la pression expiratoire va être titrée pour améliorer l'inhomogénéité des rapports ventilation-perfusion dont on a parlé tout à l'heure et donc améliorer l'hypoxémie. La pression expiratoire va aussi servir d'attelle pneumatique pour ouvrir les voies aériennes supérieures et diminuer la collapsibilité des voies aériennes supérieures et donc la résistance. Et puis enfin, on a vu la question de l'atteinte des petites voies aériennes dans l'obésité. Eh bien, la pression expiratoire va avoir un effet sur la pipe intrinsèque, donc la pression positive de fin d'expirium, qui est décrite chez l'obèse comme chez le BPCO sévère. Alors les valeurs de pression expiratoire que vous allez titrer, que vous allez en fait donner, sont des valeurs qui peuvent tout à fait être extrapolées à partir des valeurs obtenues lors d'une titration sous PPC. On va ensuite regarder la pression inspiratoire, puisqu'on parle de ventilation à deux niveaux de pression. Et ici, donc, le but est d'avoir une aide inspiratoire, c'est-à-dire la différence entre ces deux valeurs qui est suffisante pour contrôler la PCO2 diurne et la PCO2 transcutanée nocturne quand on a la possibilité de l'enregistrer. On recommande dans ces appareillages d'utiliser une fréquence de sécurité de manière à éviter la survenue d'apnée centrale qui peuvent être mises en évidence chez les sujets qui sont en mode spontané. Et puis on recommande que cette fréquence de sécurité soit aussi proche, voire légèrement au-dessus de la fréquence spontanée du sujet. Et puis enfin, les critères de cyclage doivent permettre, donc le cyclage c'est le passage de la phase inspiratoire à la phase expiratoire, ces critères doivent permettre une inspiration, une pressurisation aussi longue que possible pour à nouveau améliorer les échanges gazeux et contrôler l'hypoxémie. Le volume cible devrait être calculé de façon à obtenir un volume de l'ordre de 8 à 10 ml par kilo de poids idéal, tout en sachant que le software de tous les appareils qu'on voit, par exemple, dans l'exposition ici, ce software a une limite et ils ont tendance à sous-estimer les volumes courants. Donc la fiabilité de ces données est sujette à caution. C'est un calcul théorique si on prend l'option d'utiliser notamment des ventilateurs avec un volume cible, mais le plus important, bien sûr, c'est la correction des gaz du sang, diurne et nocturne. Et puis enfin, un élément qui paraît fiable, en tout cas pour certains appareils qu'on a eu l'occasion de tester avec Marjolaine Georges, c'est la fiabilité des index d'apnée-hypopnée donnés par les appareils confrontés ici à une polysomnographie. Mais là aussi, il y a toute une série d'appareils pour lesquels ces indices n'ont pas été testés et donc on ne sait pas ce que ça vaut. Alors qu'est-ce que ça donne quand on regarde des gens ventilés dans la vraie vie? Ceci c'est un collectif suisse, donc vous avez ici des sujets obèses hypoventileurs et puis des overlaps qui ont pas mal d'éléments physiologiques communs. Et bien vous voyez ici des valeurs moyennes de pression inspiratoire 20, pression expiratoire 8, fréquence de sécurité 14. Donc ça donne une petite idée de ce qu'on peut attendre comme type de pression, ce que vous pouvez demander à votre prestataire pour traiter ces patients. Et puis ici, vous avez toujours les données qui sont rapportées par les ventilateurs des patients. Donc vous voyez que, en fait, ils ont l'air d'être assez satisfaits, d'utiliser assez bien leurs appareils en termes de compliance ici. Et donc là, on regarde la différence entre la fréquence de l'appareil et la fréquence spontanée du sujet. Vous voyez qu'on est très très proche, la différence est minime, ce qui explique donc qu'il y ait à peu près un cycle sur deux du patient qui est spontané, le reste étant capturé par le ventilateur. Alors, dernier petit commentaire rapide. Donc, il y a un gadget dans la littérature, c'est le volume cible. La plupart des ventilateurs qu'on voit maintenant sur le marché sont dotés de ce dispositif. Les premiers dispositifs qui sont sortis avec cette option sont sortis en 2004. Et nous, médecins, faisant de la recherche clinique, avons ramé pour essayer de savoir si c'était quelque chose d'utile ou pas. Et il y a eu 4 4, 5 études dans la littérature qui ont cherché à démontrer l'utilité ou l'inutilité de cette option. La meilleure, c'est une étude de nos collègues anglais du groupe de Nicolas Hart au King's College à Londres. C'est l'étude qu'on attendait finalement. Après plusieurs études négatives, celle-ci a pris donc une série de patients obèses, hypoventileurs, et les a randomisés entre volume cible et puis support de pression à deux niveaux de pression tout à fait conventionnels, un suivi sur 3 mois, une étude physiologique très propre. Et ce qu'on voit en fait, c'est que si on regarde tous les endpoints qui nous intéressent, à commencer par la PCO2, les bicarbonates, on n'a en fait aucune différence entre les deux groupes. On va le voir mieux sur le prochain diapo. Dans les deux conditions, que ce soit volume cible ou pressure support standard, on a le même bénéfice sur la PCO2 et ça apparaît en fait beaucoup plus clairement sur ce tableau. Les gains en termes d'échange gazeux, de bicarbonate, de fonction pulmonaire, de qualité de vie sont rigoureusement les mêmes dans ces deux options. Donc, a priori, on n'a en tout cas pas de raison d'imposer ce mode ventilatoire ou ce gadget, peut-être, dans cette situation, en dehors de situations très spécifiques à discuter de cas en cas. Donc pour conclure, je dirais qu'en cas de défaillance hypercapnique associée au syndrome obésité hypoventilation alvéolaire, le traitement de choix est un ventilateur à deux niveaux de pression. La littérature nous a montré clairement les bénéfices de ce type de traitement. Quand le SOH est associé à un syndrome d'apnée du sommeil, et si on est dans une situation où le patient a été stabilisé après quelques mois, il est légitime d'essayer un traitement par PPC dans la mesure où c'est une logistique plus simple. Ce sont des traitements qui sont moins chers. Et puis, quand un patient est évalué de façon élective pour un syndrome obésité hypoventilation alvéolaire, qu'il n'est pas admis aux urgences ou aux soins intensifs, vous avez aussi tout à fait le droit d'essayer un traitement par PPC en voyant quel est le bénéfice qu'on a. Vous avez vu finalement les caractéristiques des meilleurs répondeurs. Ce seront des patients qui sont peut-être moins restrictifs, un peu moins sévèrement hypercapniques, avec un index d'apnée-hypopnée plus élevé que ceux qui seront des non-répondeurs. Et donc, on va baser cette décision sur une appréciation de ces différents paramètres. Et puis, pour terminer, donc, les patients, évidemment, les plus obèses, les plus restrictifs et les plus hypoventileurs sont, je pense, sans discussion, vraiment des candidats pour une ventilation non-invasive au long cours. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à vos questions.
Malheureusement, on n'a pas le temps pour avoir des questions parce qu'on est un peu pressé et le symposium suivant doit commencer. Donc, merci, Monsieur Janssen. Et vous pouvez aller au symposium. Merci.